Alors Didier Collonneau, en tant qu'invité, ben, je crois que vous avez été gâté sur la partie précédente, et forcément, on vous donne la parole pour vous expliquiez le ressenti et vos intentions dans cette déclaration.
Oui. Alors c'est une déclaration bien sûr qui est longuement mûrie, qui m'a permis donc pendant des semaines et des mois donc de mettre en place des rencontres avec la population, avec mes amis, avec mes équipes donc d'élus sortants. Et puis donc c'était aussi un moment où me semble-t-il il était important que je puisse dire aux Grussanais qui étaient en attente de ma décision ce que j'allais faire. Donc avec des mots qui appartiennent donc à tout le monde et bien sûr quand je parle d'optimisme radiant et ambiant, c'est une formule que je mets souvent en avant parce que je trouve que nous vivons dans les discours catastrophiques sont contre-productifs et on assiste donc d'ailleurs à cette montée de populisme donc qui nous effraie et j'encourage donc les auditeurs à deux livres qui sont très très bien structurés et vous permettrez ou nous permettront d'être peut-être un peu plus tous optimistes. C'est le livre d'Alain Braconnier, donc qui s'appelle tout simplement Optimiste, et puis le livre de Jacques Lecomte, Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez. Je prends juste un exemple sur le réchauffement climatique. En 2050, la couche d'ozone aura retrouvé son niveau initial sur la majeure partie du globe. Donc là aussi, c'est une façon de démontrer que les discours alarmistes donc nous effraient. Le réchauffement climatique, la montée des eaux, les problèmes d'érosion, qui sont effectivement des faits donc et que on peut mesurer, sauf que on ne sait pas comment à quel rythme. D'où un deuxième mot que je n'ai pas prononcé, c'est donc nous adapter. Et je trouve que ce mot est dans un vocabulaire qu'on devrait peut-être un peu plus prononcer, nous adapter par rapport à la situation donc que l'on vit régulièrement. Et puis faire donc dans une logique d'entendre. Je crois que là aussi c'est ma méthode, donc de prendre le temps dans le cadre des outils participatifs, et puis d'être pragmatique. Et ça me permet aussi de pouvoir mesurer entre, vous savez, je me méfie aussi de ces grands orateurs où derrière, donc quand vous grantez, derrière il y a souvent du vernis. Et moi je suis très attaché au pragmatique, donc de faire et de dire, et puis prendre mes responsabilités.
Donc, ouais. Voilà, donc... Un petit point de vocabulaire, Didier Collonneau, vous dites bien entendre, pas écouter. Quel est le distinguo, justement?
Je dis faire dans une logique d'entendre. Ouais. Et c'est une ma méthode et c'est une façon.
Entendre veut dire aussi comprendre. Est-ce que c'est bien ce que j'interprète?
Tout à fait, oui, comprendre et nous adapter.
Seulement écouter qui est dans la posture en quelque sorte.
Non, jamais dans la posture. Jamais dans la posture, dans vraiment la. Je reviens sur le pragmatisme et sur le crédit que nous avons, nous, les hommes et les femmes politiques. C'est donc quand on prend une décision, quand on prend une action, je crois que voilà, il faut avoir le recul nécessaire avant donc de prendre cette décision. Vous venez de le dire aussi, c'est vrai que j'ai aussi plusieurs responsabilités en tant que vice-président au niveau de la région, premier vice-président très très proche de Carole Delga, en charge de l'économie maritime, mais également donc au niveau de l'agglomération avec Jacques Bascou, président, où, je vous le rappelle, donc nous avons créé un établissement public d'intérêt commercial dans le cadre de la politique touristique, mais là aussi, il était important d'abord d'organiser le tourisme avec des petites structures. Je dis des petites structures, donc c'est pas péjoratif, mais bien sûr, il y a des communes comme Saint-Pierre et comme Port-le-Novel. Elles étaient déjà donc très opérationnelles, mais par contre, donc il fallait qu'on puisse être donc qu'on puisse avoir un certain nombre de labels, qu'on puisse également avoir donc un classement, ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait pas forcément un dysfonctionnement, une volonté de ne pas créer des conditions avec les trois structures, je parle de Narbonne, de Leucate et de Grussan. Et par contre, le terrain est préparé, la structuration est faite. Et je pense que d'ailleurs demain le tourisme devra avoir une vision donc partagée avec l'ensemble de ces trois stations classées, qui permettra donc de pouvoir hisser encore plus le tourisme au niveau du Grand Narbonne.
Oui, parce qu'une petite nécessité d'explication pour l'auditeur qui n'est pas tout à fait au fait. Les trois communes que vous avez citées aujourd'hui dans l'office communautaire font un petit peu bande à part pour des raisons pas faciles toujours à expliquer et à comprendre.
Oui, en fait, Gruissant, Narbonne et Le Cat, ce sont des stations classées. Et moi, ce que je voulais dans un premier temps, c'est pour ne pas troubler le jeu, il fallait créer le modèle, le stabiliser, et afin de ne pas risquer que les stations classées ne vampirisent le dispositif. Aujourd'hui, il y a un classement. Le directeur, avec sa directrice adjointe et l'ensemble des équipes, ont fait un travail tout à fait remarquable. Et puis demain, la structuration est faite et la politique touristique du Grand Narbonne pourra continuer son chemin pour irradier et en même temps travailler sur la destination que nous sommes en train de faire aussi.
Mais on va vers une zone cohérente où il n'y aura plus bande à part en quelque sorte.
On était cohérent, sauf que les conditions n'étaient pas tout à fait requises pour qu'il y ait une fusion. C'est d'ailleurs ce que j'avais expliqué. D'ailleurs, le maire de Narbonne, le maire de Le Cat, était tout à fait favorable à cette stratégie réussie et qui me permet en même temps de pouvoir avec beaucoup d'attente de voir la suite. Alors je rebondis sur les propos de mon ami Michel Santo quand il parle du Parti radical de gauche. On a l'impression que le Parti radical de gauche est un très grand parti, avec beaucoup d'humilité. C'est un parti qui s'est restructuré, où il y avait effectivement une mariage qui s'est pas consommé avec le Parti radical, donc les Valoisiens.
Oui, tentative de fusion qui a avorté, on peut dire.
Oui, qui a avorté. Oui, en fait, qu'on considère que le mariage n'a pas été consommé pour différentes raisons. Ça rentrait dans le principe et dans ce qui s'est passé. Nous, tout simplement, moi, en tant qu'homme de gauche, très attaché à l'écologie, à l'aspect social, on est revenu sur le Parti radical de gauche, d'ailleurs, que je n'avais jamais quitté, puisqu'on était parti sur un mouvement radical en étant également Parti radical de gauche. Sur ce qui se passe sur Narbonne, on le regarde avec beaucoup d'attention. En même temps, moi, ce que je peux dire, c'est que les militants, ils sont libres de participer aux échanges dans différents groupes sur Narbonne. Je crois que c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Ils réfléchissent beaucoup, ils s'impliquent. Et je crois que c'est même aussi l'essence de la politique. Ma responsabilité, puisque je suis président du Parti radical de gauche, donc du département, avec mon ami Édouard Roger, mais également le premier vice-président, je suis souvent premier vice-président, au niveau du Parti radical de gauche sur le plan national. Donc moi, ce qui m'importe, c'est bien sûr que nos idées puissent transgresser et puissent être très très opérationnelles. Sur Narbonne, pour l'instant, donc je n'ai pas envie de me mêler des municipales de Narbonne, tout simplement parce que ça a été dit par Michel. Je me concentre d'abord sur Gruissant, sur ce que j'appelais le navire Gruissant, et donc d'essayer de bien barrer.
Le navire amiral.
Peut-être pas le navire amiral. Non, restons modestes. Non, une commune, je crois, qui est bien gérée. On parlait de fiscalité, la fiscalité, elle est non seulement tenue, mais les impôts n'ont pas augmenté depuis le mandat. C'est un engagement de campagne que j'ai tenu, donc je suis assez fier d'avoir tenu l'ensemble de tous mes engagements, pratiquement plus de 90%. Et d'autres projets, bien sûr, qui verront le jour.
Oui, si vous permettez un éclaircissement là-dessus, ça, ce que vous dites, est-ce que ça sous-entend que les membres du Parti radical de gauche de Narbonne, qui vont, par exemple, être sur la liste de Mme Granier-Calvé, le font à titre individuel et non pas à titre officiel de PRG?
Oui, pour l'instant, avec Édouard Rocher et avec Guillaume Lacroix, aucune décision n'a été prise sur l'ensemble, d'ailleurs, l'intérieur du territoire, donc France. Nous sommes en train de regarder donc l'ensemble de notre positionnement sur des villes qui méritent donc une attention très particulière. Je ne dis pas que Narbonne ne mérite pas une attention particulière. Par exemple, sur la ville de Montpellier, où effectivement il y a un rapprochement avec la majorité régionale.
Positionnement qui serait plus politique.
Oui, un positionnement sur des villes qui méritent d'avoir un positionnement politique. Donc c'est le cas pour quelques villes où il y a des stratégies importantes sur la majorité régionale. Sur Narbonne, pour l'instant, donc moi je n'ai décidé de ne pas me mêler de ces des municipales, en regardant bien sûr avec un regard très 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 attentif sur ce qui va se passer, puisque en même temps, comme le disait Michel, il y a plusieurs listes, on ne sait pas donc finalement comment elles sont structurées. Est-ce qu'on parle de fusion? Est-ce qu'on parle donc de deuxième tour? C'est des choses qu'on verra par la suite. Mais
en sachant encore une fois que tout ça aboutit à l'agglo après, et que l'agglomération, on sait que le président actuel, Jacques Bascou, a déclaré, lui, clairement, qu'il ne se représenterait pas. Donc ça laisse la porte ouverte avec presque une sorte d'aspiration, sinon de courant d'air.
Oui, mais l'agglomération, mon positionnement, il est très très clair. Hein. Donc j'étais premier vice-président. J'ai été très très attentif à ce qui se passe. Je peux vous dire que c'est pas forcément avec beaucoup de joie que j'ai pu constater qu'il y avait un vrai déchirement entre la ville-centre et l'interco, même si j'essayais d'œuvrer donc pour que ce rapprochement se fasse avec le maire de Narbonne et Jacques Bascou. C'était très compliqué. Et je sais que pour l'avoir vécu en 2003, puisqu'il y a eu la création de l'agglomération, où d'ailleurs Michel Santo était conseiller de Michel Monnier, et on s'est aperçu que dès qu'on politise, ça crée des clivages, ça fait donc ça crée des tensions, et c'est pas forcément une bonne chose, et c'est ce qu'on avait vécu, nous, en fin de période de Michel Mouly, de Michel Monnier, pardon, qui a créé donc du désordre, et qu'on a finalement revécu sur ce mandat. Et je comprends que les Narbonnais soient un peu déstabilisés, ne comprennent pas trop tout à fait ce qui se passe. Donc je veillerai à ce que ça ne se reproduise pas.
Une remarque, Michel Wynne.
Oui, c'est bien que Didier Caudron-Nioux insiste sur cet aspect-là des relations entre la ville-centre et l'agglo. Car il l'a dit, mais je le répète, je ne cessé de le dire à travers mes chroniques, on a payé pendant ce mandat une série de dysfonctionnements qui ont été préjudiciables aux deux faites parties, notamment à la ville-centre. Donc moi, ce que j'attends effectivement de la future majorité du conseil de l'agglo et de son président, c'est que le premier principe qui sera mis sur la table, c'est que le mode d'organisation et la distribution des pouvoirs permettent effectivement qu'entre la ville centre et l'agglo, quelles que soient les majorités qui se créeront à l'époque, soit arrêtées. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement à pacifier effectivement les deux termes et qu'on ait une gestion optimale pour le territoire. Car on ne peut pas imaginer une seule seconde que le développement de l'agglo puisse se faire en contradiction avec le développement de la commune.
Voilà. Alors disiez là-dessus.
Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Et moi, j'ai toujours eu une vision donc très très claire sur l'intercommunalité qu'on a vu créer. C'était d'une part la répartition de la richesse et que la ville-centre donc puisse aussi jouer son rôle pour amener donc ce que des petites communes n'ont pas la capacité ou la possibilité de faire. Et cette répartition de richesse, on s'aperçoit ou des infrastructure ou de structure n'était pas opérationnelle et ne s'est pas faite dans les meilleures dispositions. Donc là aussi, j'assume cet échec, moi, en tant que vice-président. Et je ferai en sorte, donc, si j'étais réélu à Gruissant, donc je ferai en sorte pour que ce Grand Narbonne se comporte d'une manière dignement, avec dignité, mais également avec ferveur, avec bienveillance pour notre population qui le mérite.
Oui, optimisme ambiant et radiant. Alors maintenant, je m'adresse au premier vice-président de l'agglomération de la région Occitanie, et notamment aussi le président du Parlement de la Mer. Alors c'est une assemblée. C'est quoi ? C'est une filiale de la région, ce Parlement ?
Non, c'est une belle aventure qui fait référence sur le plan national. J'étais lundi au Comité France Maritime. C'est une structure qui est flotte pilotée par le secrétaire général de la mer, sous le contrôle du Premier ministre, où régulièrement je prends la parole, donc quand on parle de la croissance verte. En fait, c'est une structure qui fédère la communauté maritime, qui porte un plan littoral 21. En fait, c'est un contrat donc État-région d'1 milliard d'euros. Aujourd'hui, donc 650 millions d'euros ont été investis sur la communauté maritime. Donc. Et également sur Littoral Plus, on est sur de l'innovation, notamment sur des éoliennes offshore que nous verrons au large de Port-la-Nouvelle et de Le Cat. Voilà, ce Parlement de la mer, il est très très opérationnel. Cet après-midi, donc je suis à Marseille pour le comité au conseil de façade, où là on est sur les enjeux environnementaux, sur le bon état écologique de la Méditerranée, sur les problèmes de pollution, parce que je considère que l'écologie n'appartient pas à un parti, elle appartient donc à l'âme des Français, à l'ensemble de tous les acteurs, et il est important que on s'occupe de notre mer, donc notamment cette Méditerranée qui souffre donc avec ces plastiques, donc les macroplastiques et les microplastiques qui font des dégâts à notre environnement, et de nous adapter également. Et d'ailleurs, je vous annonce le mois prochain, dans le cadre du Parlement de la mer, nous verrons des objets flottants. Donc en fait, ce sont des maisons flottantes qui verront le jour dans fin novembre à titre expérimental et qui rentrent à Gruissant, et qui rentrent donc dans le cadre de la résilience écologique. Comment répondre donc à la montée de la mer?
Donc une expérimentation.
Une expérimentation donc qui nous proposera demain, 2020-2021, 30 structures flottantes derrière la gendarmerie maritime, avec bien sûr accompagné par les services de l'État. Et c'est aussi ce que fait le Parlement de la mer.
Oui. Alors, vous parliez, Didier Codorniou, de croissance verte. On parle aussi pour la mer de croissance bleue. Alors, essayez de nous expliquer. Oui, alors, le vert, c'est l'écologie, ce sont les éoliennes qui pourraient être sur la mer ou ailleurs d'ailleurs. Mais la croissance bleue spécifique.
Oui, en fait, quand je parle de croissance verte, je suis sur le verdissement de la croissance bleue. Là aussi, monsieur Michel,
donc, on est dans la nuance.
Le verdissement de la croissance bleue.
Alors là, c'est plus du lyrisme, c'est de l'art pictural.
Non, je ne fais que reprendre les propos du secrétaire général de la mer. Voilà, qui est venu le 16-17 juin, donc, dans notre région. La croissance bleue, oui, bien sûr, c'est tout ce qui touche à cette richesse donc de la mer, des océans. Je rappelle que 90% des marchandises transitent par les mers et par les océans, que donc tous les enjeux, une grande partie des enjeux vont se faire au niveau de la mer, au niveau de la recherche fondamentale, et qu'il est de notre importance de muscler, si je puis dire, donc la structuration de la croissance bleue, d'où ces outils. Donc je parlais du comité France Maritime, du conseil de façade, du Parlement de la mer et du plan littoral 21, et pour clore donc sur ce sujet, enfin, à moins que vous ayez une autre question, nous travaillons sur le plan littoral 22 avec le préfet de région, où dans le cadre d'un contrat plat État-région que nous sommes en train de renouveler pour 2020, et qui permettra, je l'espère, d'avoir une ambition encore plus forte, notamment sur la requalification des stations du littoral, qui ne sont pas forcément traités aujourd'hui, parce que donc 1 milliard d'euros, c'est beaucoup, mais peu pour la requalification.
Et Didier Codorniou, Port-la-Nouvelle et son agrandissement de port et les futures éoliennes, c'est de la croissance verte ou de la croissance bleue?
C'est les deux, parce que sur le port...
La croissance orange.
sur le port de Port-la-Nouvelle, déjà, donc on est sur doubler les trafics dans un premier temps. C'est développer l'éolien, c'est rechercher de nouveaux marchés. Et de nouveaux marchés, mon cher Michel, donc nous sommes sur de l'hydrogène vert, donc sur la production, mais également sur le stockage, puisque demain, après-demain, nous aurons de plus en plus des circulations qui vont se faire avec les trains, mais pas que, ça existe ailleurs, avec les bateaux, mais également avec les bus, avec les voitures et avec donc tout ce qui touche donc au transport de l'intermodalité, mais également des pistes douces.
Alors la Nouvelle est un port futuriste?
Non, c'est un port de transition énergétique, donc d'une ampleur inégalée et qui fait partie donc de ce port demain avec une référence nationale, même internationale, sur ce qu'on appelle communément un port propre.
Oui. Un tout dernier mot pour conclure, Didier Codorniou. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec vos maisons flottantes de Gruissan. Vous faites allusion au réchauffement climatique et à la montée des eaux. Gruissan, au bord de la mer, est en première ligne. Comment voyez-vous l'avenir justement à ce niveau-là? Et on conclura là-dessus.
Ouais, deux éléments. On n'a pas une vision très très précise sur donc la mer Monte sur les 50 prochaines années. Il y a des études, il y a des stratégies qui sont élaborées par la direction donc de la DDTM, la DAREAL, mais on ne sait pas si la mer montera de 20 cm, de 50 cm ou plus ou pas. Donc deux éléments, les pilotis, on est aussi bien placé donc avec de nombreux chalets qui répondent tout à fait donc à la montée des eaux, donc coup de mer et puis l'eau se recule et notamment sur la transparence hydraulique. L'habitat flottant est une réponse.
C'est la fameuse adaptation dont vous parliez tout à l'heure.
La fameuse adaptation, notamment l'anticipation sur la démographie. 15 000 habitants viennent chaque année sur notre territoire, ils veulent vivre sur le littoral. Donc si demain donc on veut continuer à proposer donc à nos nouveaux habitants de vivre sur nos bords de côte de rivage, c'est une peut-être structure, une peut-être une réponse adaptée, mais également aussi d'anticiper sur ces nombreux campings qui risquent d'être touchés,
voilà,
impactés.
Également.
On parlait donc de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales qui vont être très impactés avec donc le problème de l'érosion. Les pilotis ou les structures flottantes peuvent être une solution.
Donc voilà une image de l'avenir qu'on va offrir aux auditeurs et on va les laisser rêver, imaginer là-dessus. Merci en tout cas Didier Codorniou d'être venu nous faire ce grand tour d'horizon avec vos diverses casquettes. Le prochain invité sera Guillaume Heras, qui est un des vice-présidents également de l'AGLO, maire de Saint-Marcel. Après quoi, rapidement, nous recevrons Monsieur Péréa, le député, Monsieur Louis Privat également. On changera un petit peu de sujet de temps en temps, et puis etc. etc. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce troisième Radio Barque et à la semaine prochaine.
Au revoir Jean-Claude, au revoir Michel. À la semaine prochaine.